France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Alors que l'Empire romain connaissait son apogée, la Chine, avec la dynastie des Han, connaissait elle aussi un âge d'or qui a vu naître une culture savante d'une très grande richesse. Dans ce foisonnement de sciences, que nous disent les textes du canon mathématique sur l'approche algorithmique et calculatoire privilégiée en Chine antique? Et comment ont-ils influencé aussi bien la philosophie que l'astronomie, tout en servant de rouage à l'administration de l'Empire? Science Chrono part aujourd'hui à la découverte de l'histoire antique méconnue des mathématiques en Chine. Bonjour Karine Chemla.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS émérite au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité et professeure à l'Université d'Édimbourg et vous êtes spécialiste de l'histoire des mathématiques en Chine ancienne et médiévale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler de ces mathématiques en Chine antique. Avant de parler de cette histoire, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons des premières et dernières fouilles réalisées dans le camp de concentration et centre de mise à mort d'Auschwitz. Birkenau. Réalisées en 1967, ces fouilles ont été réalisées sur demande du cinéaste polonais Andrzej Brzozowski, qui en a fait un film intitulé Archeologia, et sur lequel la cinéaste et historienne du cinéma Ania Szczepanska a enquêté dans le cadre de son documentaire intitulé Sous la Terre. Nous la recevrons, ainsi que l'archéologue Alain Schnapp, pour parler non seulement de ce film saisissant, mais aussi des enjeux de l'archéologie de la Shoah et plus globalement de l'archéologie du contemporain. Mais avant cela, nous allons nous tourner du côté de la Chine et plus principalement de l'histoire des mathématiques en Chine. Karine Chemla, dans une interview que vous accordiez au magazine Science et Avenir en 2011, vous disiez « En Chine, comme ici, 2 et 2 font 4. En revanche, divers milieux en Chine ancienne ont élaboré des manières différentes de pratiquer les mathématiques. Ils ne se sont pas posés les mêmes questions, on n'a pas suivi les mêmes pistes partout. Et c'est justement ces autres pistes que nous allons suivre aujourd'hui, et pour cela il n'est pas inutile de comprendre le contexte dans lequel elles ont été tracées. Alors, contextualisons un peu cette production de savoir mathématique dans ces divers milieux de la Chine ancienne. Karine Chemla, quel est le cadre historique, politique, dynastique qui a favorisé la rédaction de ces grands textes mathématiques dont on va parler tout à l'heure?
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que on ne peut faire d'histoire que quand on a des textes. Or, les seuls textes qui sont parvenus jusqu'à nous, ce sont des textes qui ont été écrits au moment où l'Empire est établi, c'est-à-dire au moment où le fameux empereur Qin Shi Huangdi, celui qui était enterré avec les milliers de soldats en terre au milieu de la Chine, unifie la Chine et crée une bureaucratie qui va émailler le territoire. Donc c'est de ce moment que datent les premiers textes que nous pouvons lire. Il y a certainement eu des mathématiques en Chine avant, mais nous sommes des historiens, nous n'avons pas de texte, nous ne pouvons pas en parler.
Si on devait faire une hiérarchie qui est un petit peu artificielle, mais quelle place occupent les mathématiques dans ce développement culturel qui se réalise au moment de la dynastie, du début de la dynastie des Han?
Ce qui est très important de comprendre, c'est que les mathématiques que nous pouvons observer, ce sont des mathématiques qui sont attachées à l'Empire, aux institutions de l'Empire, à la cour, à la bureaucratie. Nous n'avons aucune information sur la manière dont les marchands comptaient, ils ne nous ont laissé aucun document. Et donc, quand on parle de la Chine, en fait, on parle de milieux très restreints, qui sont les milieux de ceux qui travaillaient pour la bureaucratie impériale.
Quelque chose me frappe dans ce que vous dites, vous parlez de mathématiques en Chine, et je crois qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur de ne pas parler de mathématiques chinoises, mais bien de mathématiques en Chine. Pourquoi cette distinction-là?
Quand on parle de mathématiques chinoises, on pourrait avoir l'impression qu'il y aurait un type de mathématiques spécifique à la Chine et qu'on pourrait qualifier de chinoise. Tandis que quand on dit mathématiques en Chine, on parle de mathématiques, ce qui est quelque chose d'universel, et on regarde qu'est-ce que nous disent les textes écrits en chinois sur cette histoire des mathématiques.
Est-ce qu'on peut dire que sur ces mathématiques en Chine, si on parle de ces grands textes qu'on va aborder dans un instant, certains sont restés dans l'ère géographique chinoise et d'autres ont voyagé? Quels sont les grands cas de figure, si on peut dire?
Figurez-vous que récemment, nous nous sommes rendus compte qu'un des éléments les plus importants de ce que nous trouvons en Chine, c'est-à-dire le système positionnel décimal, celui qui fait que quand on écrit 1, 2, 3, on lit 123. Ce système, on en trouve des traces en Chine au 1er siècle. Mais c'est un système purement matériel. Quand on a des textes en sanskrit, donc du sous-continent indien, qui nous parlent de ce même système, 1, 2, 3 veut dire 123, c'est aussi un système matériel. Autrement dit, tout nous porte à croire qu'il y avait des circulations de savoir indépendamment des textes et sous la forme de pratiques matérielles qu'on se montrait.
Alors on va parler de... On a choisi de façon, non pas arbitraire, mais voilà, on a été obligé de faire une sélection dans ces textes mathématiques de Chine. Et donc on va en parler. On va parler de trois principaux textes. On va commencer de façon tout à fait chronologique avec les écrits sur les procédures mathématiques. Déjà, en soi, ces écrits-là, ils ont une histoire un peu amusante, intéressante, en ce qui concerne leur découverte. Dans quel cadre ont-ils été découverts?
Alors, pour ça, peut-être on peut prendre un peu de recul. Dans les années 1970, en Chine, les archéologues commencent à ouvrir des tombes et trouvent des trésors dans certaines de ces tombes. 1983-84, au cours de l'hiver, on ouvre une tombe qui, on pense avoir été celle d'un bureaucrate qui travaillait à l'échelle d'une province ou d'un comté. Et dans cette tombe, on trouve, parmi d'autres livres, un livre de mathématiques. Donc, ce monsieur était parti dans l'au-delà, non pas seulement avec des objets précieux auxquels on pourrait penser, des vases ou je ne sais quoi, mais également avec sa bibliothèque, et dans cette bibliothèque, un texte de mathématiques.
C'était fréquent de se faire enterrer avec sa bibliothèque quand on était fonctionnaire de cette Chine antique?
Eh bien, aujourd'hui, on estime qu'une tombe sur 10 environ contient une bibliothèque. Toutes ne contiennent pas des ouvrages de mathématiques, certaines seulement.
Karine Chemla, vous avez parlé de livres, et puis après vous vous êtes reprise, vous avez dit ce texte. Alors, quelle forme il prend ce texte, puisque ce n'est pas justement un livre relié tel qu'on l'imagine?
Alors, pourquoi est-ce que je me suis reprise? Ce texte, on va commencer par la matérialité, il est écrit sur lattes de bambou. À l'époque, on coupait le bambou, on préparait des lattes pour pouvoir écrire dessus, on liait ces lattes avec des cordes végétales, et on écrivait sur la surface, donc c'est comme si on mettait les lignes d'un livre, si vous voulez, bout à bout, et qu'on écrivait ligne à ligne. Simplement, quand on trouve ces textes dans les tombes, les cordes se sont désintégrées, on n'a plus que les lattes, il faut remettre les lignes dans le bon ordre.
C'est un puzzle.
Parfois, on a des livres. Mais, après avoir travaillé sur ce texte avec un collègue, Daniel Morgan, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ce texte provenait sans doute d'un apprentissage de mathématiques. Il provenait de la discussion de deux personnes, dont l'un, visiblement plus âgé, enseignait les mathématiques à l'autre, et on a des traces de leurs deux mains sur les lattes. Ce qui nous amène à penser qu'il s'agit plutôt de notes dans le contexte d'un enseignement, et pas d'un livre, ce que tout le monde a cru jusqu'à présent.
Parce que j'allais vous poser justement la question du destinataire et de la fonction de ce livre, parce que là, à nouveau, ça va être compliqué de déterminer ça aussi longtemps après. Peut-être qu'on peut donner la date, d'ailleurs, de ce livre.
Donc, on pense que ce texte a été achevé peu avant la fin du IIe siècle, avant notre ère. Et donc, si vous voulez, ce qui nous a amené à faire l'hypothèse dont je viens de vous parler, c'est qu'en fait, il y a deux mains qui écrivent et deux mains qui se répondent sur les lattes. Mais encore plus drôle, en fait, il y a des points qui sont des points de gens qui vérifient et qui indiquent des erreurs. Donc en fait, les aspects matériels de ce document révèlent tout un environnement avec pas mal de gens et un environnement où les uns font l'apprentissage des autres, corrigent les troisièmes, et c'est comme ça qu'on peut reconstituer, alors qu'on n'a qu'un seul document, toute une population.
Toute une dynamique aussi de circulation de ce savoir mathématique dans la Chine antique. À quoi correspondent ces enseignements, ces échanges, que se disent ces deux mains qui écrivent dans
Donc,
ces écrits?
Dans le cas des lattes où ils échangent, l'un écrit une table et l'autre répond par une réponse qui sera le résultat d'un calcul qu'il aura fait sur la base de la table. Donc on les voit échanger à des endroits très précis. Le premier pose une question et le deuxième écrit la réponse.
Est-ce que ce texte-là, les écrits sur les procédures mathématiques, est le plus ancien à ce jour connu en Chine ou bien est-ce que d'autres découvertes archéologiques sont venues le détrôner déjà ?
C'est le plus ancien connu à avoir été publié, qui a été trouvé dans le cadre de fouilles légales. Malheureusement, dès qu'il y a de l'archéologie, il y a des fouilles illégales, il y a des pillages. Un autre texte est apparu, plus ancien, sur le marché des antiquités. Donc, bien entendu, se pose la question de savoir si c'est un faux ou s'il est authentique. Il a été publié il y a quelques années. Il est plus ancien, donc il date en fait justement de la dynastie des Qin, cette dynastie qui n'a duré que 20 ans et qui a été immédiatement après renversée par la dynastie Han, dont vous parliez tout à l'heure.
Ce qu'on peut dire, Karine Chemla, c'est que ses écrits sur les procédures mathématiques, en leur temps, ont détrôné un autre écrit capital dans l'histoire des mathématiques en Chine antique, celui qu'on appelle le gnomon des Zhou. Alors le gnomon, dans Sciences Chrono, on y a consacré une émission entière, c'est cet instrument qui permet finalement de faire des mesures astronomiques très très simples et capitales, en même temps dans l'histoire de l'astronomie, sur la base de la lumière du soleil et de l'ombre portée par ce bâton. Est-ce que ça signifie que dans ce gnomon des Zhou, on a tout de suite une application des mathématiques à l'astronomie et que c'est l'essentiel qu'on retrouve dans ces textes-là ?
Quand vous dites application des mathématiques, ça voudrait dire qu'on a des mathématiques et qu'on les applique ailleurs. Il y a une autre hypothèse qui serait qu'on fait des mathématiques dans le cadre d'activités de sciences astrales pour établir le calendrier, et en l'occurrence pour le gnomon des Zhou, pour réfléchir à la cosmographie. Comment est le ciel? Comment est la Terre? Quelle est la relation entre le ciel et la Terre? Etc. Donc en fait, cet ouvrage reflète les mathématiques qu'on faisait dans le contexte de l'établissement du calendrier dans le contexte de la cosmographie. On y trouve, au début, ce que nous avons coutume d'appeler le théorème de Pythagore, mais non pas sous la forme d'un théorème, sous la forme d'un algorithme. Et on y trouve comment calculer la longueur de l'année, comment déterminer la longueur du mois, etc.
C'est intéressant ce que vous dites, Karim Chenla, en parlant d'algorithme, de calcul, en le mettant au regard du théorème. Là aussi se dessine quelque chose de très spécifique à ces mathématiques en Chine durant la dynastie des Han, enfin au début en tout cas, et pendant cette période antique, c'est l'importance prépondérante qu'ont ces formes calculatoires, algorithmiques. Comment on peut définir et décrire ça ?
Alors, vous avez vraiment raison d'insister là-dessus. Les nombres ont joué un rôle essentiel dans les mathématiques en Chine. Ceci dit, il est important de distinguer algorithme et calcul. Je vous en donne un exemple. On a une procédure, dans ces textes dont nous parlons, on a une procédure qui calcule l'aire du cercle. Cette procédure dit multiplier la moitié du diamètre par la moitié de la circonférence, vous trouverez l'aire du cercle. C'est un algorithme tout à fait exact, mais qui ne peut mener à aucun calcul, parce qu'on ne peut pas avoir simultanément le diamètre et la circonférence. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une distinction entre établir des relations de calcul entre des grandeurs et faire un calcul. On trouve ces deux choses articulées l'une à l'autre dans les textes dont nous parlons.
Ce gnomon des Zhou, comment on peut le distinguer de ses écrits sur les procédures mathématiques-là ? Est-ce qu'il a une fonction, lui, celui-ci, très différente de ce texte qu'on décrivait tout à l'heure, qui était plutôt destiné visiblement à l'enseignement ou à qui est un témoignage d'enseignement ? Quelle différence y a-t-il ?
Les écrits sur les procédures mathématiques sont clairement un texte qui témoigne d'un enseignement des mathématiques, sans doute lié à l'administration des finances, à l'administration qui s'occupe de l'économie de l'État. Et en fait, il n'y a pas de théorème de Pythagore dans ce texte, et il y a tout un ensemble de sujets comme le calcul de la valeur des grains, le calcul de volume, qui peuvent renvoyer à la fois à la mesure de la valeur des grains et à des travaux publics, des calculs d'impôts, etc. Donc, nous avons là avec les écrits sur les procédures mathématiques, un texte qui reflète des mathématiques qui pouvaient être utiles aux bureaucrates en charge des finances de l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été au-delà du pur utilitaire, ils ont été au-delà du pur utilitaire, mais ce sont des mathématiques qui répondent à ce type de problématiques. Dans le mouvement des Joux, ce sont plutôt des mathématiques qui reflètent des activités de sciences astrales. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés. Il y a un fond commun, des calculs avec des fractions qui sont communs aux deux types de textes. Il y a tout un fond commun de connaissances, mais il y a aussi des différences sur le rapport des sujets traités.
Alors, est-ce qu'on peut donner, peut-être rappeler les bornes temporelles dans lesquelles on se situe quand on a parlé des écrits sur les procédures mathématiques? Le gnomon des Joux, à quel moment on se situe si on doit donner des dates, tout simplement?
Les historiens s'arrachent les cheveux les uns des autres sur cette question. En fait, pour l'instant, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le gnomon des Joux est composé de morceaux qui datent d'époques différentes. Bon, certains font remonter des morceaux au XIe siècle avant notre ère. Je ne fais pas partie de cela. Mais il est certain que c'est un livre qui a été composé en mettant ensemble des morceaux d'époques différentes. C'est un livre qui a été un canon. C'est un livre qui a été utilisé pour l'enseignement des mathématiques jusque très tard en Chine. Or, de façon extraordinaire, certains des calculs que contiennent certaines parties sont les mêmes, ces calculs, que ceux qu'on va trouver dans les ouvrages postérieurs. D'autres calculs sont les mêmes que ceux qu'on va trouver dans les écrits sur les procédures mathématiques.
Donc on a vraiment une transition qui s'opère de façon assez évidente.
On a une transition, mais aussi on a la certitude qu'alors que ce texte nous est parvenu en étant transmis de génération en génération, en étant copié, en étant édité, il n'a pas été modernisé. Car s'il avait été modernisé, on aurait modernisé les calculs, qui étaient en fait des calculs de type plus ancien.
Puisque vous parlez, Karen Chemla, de textes postérieurs, on avance et on va parler de ces 9 chapitres qui, vous évoquez le mot de canon, sont vraiment parmi les plus importants du canon mathématique en Chine. Et ces 9 chapitres, c'est vraiment le grand classique, on va le dire. Alors, vous en avez fait une traduction commentée en 2005. Ça correspond à 1140 pages de texte en tout. Donc, bravo, déjà.
Avec un collègue chinois, voilà, monsieur Bo Shuqun.
Voilà. Ça n'a pas dû être une partie si simple que ça, de se replonger dans ces traductions-là. Est-ce que, voilà, on n'a pas parlé déjà d'un fait important. C'est qu'on n'a pas donné de nom d'auteur. On n'a pas donné de nom de personne à qui on pourrait attribuer ces écrits-là. Prenons le cas des 9 chapitres. Est-ce qu'on sait qui a écrit ces textes-là?
De façon extrêmement intéressante, le témoignage le plus ancien que nous ayons sur qui a fait quoi pour produire le texte des 9 chapitres, le témoignage le plus ancien date du 3e siècle et il nous dit « Zhang Cang, au 2e siècle avant notre ère, a retrouver des morceaux de vieux textes pour remettre ensemble les 9 chapitres qui étaient censés avoir été brûlés dans l'autodafé pratiqué par le premier empereur dont nous avons parlé tout à l'heure. Et un siècle plus tard, Geng Shouchang a continué le travail d'édition. Donc ce que nous savons de ce livre, c'est qu'en fait, il est plutôt le fruit d'une édition qui a été poursuivie au fil des siècles que d'un seul auteur.
C'est un travail de compilation.
Je n'aime pas le mot compilation, je dois vous avouer, parce que quand on dit compilation, souvent, on a l'impression qu'on prend des bouts, qu'on les met ensemble sans travail intellectuel. Or, pour moi, ces 9 chapitres sont le produit d'une synthèse. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on y voit des sujets mathématiques dont nous savons maintenant qu'ils sont plus attachés au milieu de la bureaucratie en charge des finances et des sujets mathématiques qui touchent plus aux sciences astrales, le tout dans un système théorique que sont les 9 chapitres.
Quel sujet, par exemple, on pourrait citer?
Je parlais tout à l'heure du dit théorème de Pythagore. Ce théorème fait l'objet, dans les 9 chapitres, du dernier chapitre, qui traite de beaucoup de problèmes relatifs au triangle rectangle. Ça fait écho au début du gnomon des Joux dont on parlait tout à l'heure. Mais la question de la valeur des grains, qui est à la base de ce que nous appelons la règle de 3. Cette question de la valeur des grains, qui est prépondérante dans les textes de mathématiques associés au milieu de la bureaucratie, cette valeur des grains, c'est le chapitre 2 des 9 chapitres. Donc, tout ça est mis ensemble, mais dans un tout théorique où la généralité, la valeur de généralité, joue un rôle essentiel.
Comment, dans ces 9 chapitres, les choses sont-elles présentées, démontrées ? Parce qu'on sait qu'en mathématiques, c'est aussi très important la façon dont on a de présenter les résultats de ces recherches. Alors, dans ce cadre-là, de la Chine antique, comment disait-on les mathématiques, si je dois le formuler de façon simple ?
Alors, on disait les mathématiques sous la forme de problèmes suivis de réponses et de ces fameux algorithmes. Et donc, la question qui se pose, si on veut interpréter un texte comme les 9 chapitres, c'est qu'est-ce qu'était un problème en Chine ancienne ? Parce qu'on pourrait évidemment le lire comme si on lisait un livre d'exercice d'aujourd'hui, mais ce serait projeter une lecture du XXIe siècle sur un texte ancien. Donc j'ai consacré beaucoup de temps à cette question, qu'est-ce qu'était un problème en Chine ancienne ? Dans des commentaires qui ont été rédigés au IIIe siècle, au VIIe siècle, on trouve des démonstrations systématiquement que les algorithmes des 9 chapitres sont corrects. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans ces commentaires, on utilise les problèmes dans le contexte de la démonstration. Mmh. Et donc on voit qu'un problème, ce n'était pas ce qu'est un problème pour nous, mais c'était un type d'énoncé qui jouait un rôle dans le contexte de la démonstration.
On avait consacré une émission aussi dans Sciences Chrono aux mathématiques indiennes médiévales et antiques. Là, ça me semble se rapprocher de cette approche-là et de la centralité du problème, finalement, dans la pratique mathématique.
Pour ce que je sais des textes sanscrits, les textes les plus anciens, ils sont composés de règles rédigées sous forme de sutras, et ce sont les commentateurs qui, pour éclairer le sens des règles, les interpréter, introduisent des problèmes pour faire valoir l'ensemble des sens qu'il est possible de lire dans une règle énoncée sous forme de sutras.
Quand on revient là, si on revient aux 9 chapitres qui sont restés finalement une référence pendant plus de 1000 ans en termes de sciences mathématiques en Chine, il y en a même qui le comparent au traité de très très célèbre de stratégie militaire, l'art de la guerre de Sun Tzu. Comment expliquer cette durée de vie ? Est-ce que c'est justement parce que c'est un texte qui a été édité, commenté, annoté, enrichi, que les 9 chapitres ont une durée de vie aussi importante ?
C'est le fait que les 9 chapitres ont été au cœur d'un enseignement des mathématiques qui a été délivré dans la première université de mathématiques au monde, qui a été établie au 7e siècle. En tout cas, nous avons la certitude qu'au 7e siècle, une université de mathématiques a été établie. On pense qu'une école existait peut-être avant. Au 7e siècle, on choisit 10 livres pour devenir les manuels qui permettront de former les fonctionnaires qui rentreront dans la bureaucratie de l'État. Et dans ces 10 livres, les 9 chapitres sont le seul ouvrage auquel on consacre 3 ans d'études. Donc, il a été considéré comme un ouvrage central pour la formation de ces personnes qui rentreraient dans la bureaucratie.
Si c'est... Alors, une première chose là, puisque vous parlez de la bureaucratie, c'est la dimension utilitaire, d'une certaine façon, de ces mathématiques et qui en font un pilier de l'équilibre politique d'un empire. Alors, est-ce qu'on peut parler des mathématiques comme d'un des piliers politiques de la Chine antique et médiévale ?
Cela a été un débat en permanence. En permanence, il y a eu des gens qui considéraient que les savoirs techniques jouaient un rôle clé pour la stabilité de l'État, et d'autres qui pensaient que les textes qui délivraient des valeurs morales étaient plus importants. Donc, en Chine, c'est comme ailleurs. Les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ils discutent. Pour certains, les mathématiques étaient centrales. Pour d'autres, les mathématiques étaient moins importantes que la formation morale.
Une fois n'est pas coutume, Karine Chemla, on va utiliser une archive un peu tardivement dans Sciences Chrono, mais ce qui m'intrigue, c'est que nous autres occidentaux, on a une vision parfois un peu déformée de ces mathématiques en Chine. Et si nous en avons une vision déformée, c'est peut-être parce que en Occident, on a pu avoir une vision un peu européocentrée de la production du savoir mathématique. Pour illustrer ça, vous nous avez confié un texte. Il est tiré du Journal des Savants, datant de novembre 1841. Il y est question d'un compte-rendu rédigé par l'astronome et physicien français Jean-Baptiste Biot. La lecture de cette archive vous est faite par Laurent Blanpin, c'est l'archive de Sciences Chrono.
À l'occasion d'un compte-rendu que Jean-Baptiste Biot publie en 1841 sur un traité sur les instruments astronomiques rédigé en arabe au XIIIe siècle, dont Jean-Jacques Sédillot vient de faire paraître une traduction, Biot affirme la chose qui suit. On y trouve une nouvelle preuve de cette singulière habitude d'esprit en vertu de laquelle les Arabes, comme les Chinois et les Hindous, bornaient leurs compositions scientifiques à l'exposition d'une suite de règles sans besoin de démonstration logique ni de connexion entre elles. Ce qui donne à ces nations orientales un caractère remarquable de dissemblance, et j'ajouterais d'infériorité intellectuelle, comparativement aux Grecs, chez lesquels toute proposition s'établit par raisonnement et engendre des conséquences logiquement déduites. Cette fixation des méthodes scientifiques, sous forme de préceptes, doit avoir offert un grand obstacle au développement des idées nouvelles chez les peuples où elle a été en usage, et elle contraste terriblement avec notre devise européenne « Nullius in verba ».
Nullius in verba, traduction « Ne croyez personne sur parole ». Karine Chemla, pourquoi ce choix d'archives alors que vous auriez pu simplement nous confier un extrait d'un passage de ces grands textes mathématiques dont on parlait tout à l'heure ?
Je suis frappée par le fait qu'il y a des idées dont on n'arrive pas à se débarrasser. Des idées selon lesquelles nous, en Occident, comme si ce « nous » avait un sens, ferions les choses d'une certaine manière, tandis que tous les autres, les orientaux, les feraient tous autrement et de la même manière. Nous serions ceux qui démontrent, eux seraient ceux qui calculent. C'est une représentation que je rencontre encore trop souvent. Et donc j'ai choisi de l'illustrer par ce texte qui est assez frappant. Et j'ai voulu, par ce texte, donner corps à cette représentation complètement déformée et qui déforme beaucoup de choses. Parce que ce texte oppose démonstration et calcul. Mais démonstration et calcul ne sont pas opposés l'un à l'autre. On fait un calcul, on doit démontrer qu'il est correct. Donc l'idée qu'on aurait la démonstration d'un côté et le calcul de l'autre ne tient pas debout. La représentation du calcul, qui est quelque chose de très important aujourd'hui, la représentation du calcul, c'est que les gens qui calculent obéissent. Les gens qui calculent sont des esclaves. Non, les gens qui calculent font preuve d'autant de liberté dans leur calcul que les gens qui démontrent. Donc, ce n'est pas seulement un problème dans la représentation d'un soi-disant « nous » et d'un soi-disant « autre », mais c'est également un problème dans la représentation des activités fondamentales des mathématiques, la démonstration et le calcul. Et je pense qu'il faut repenser tout ça.
Repensons tout ça et repensons aussi à ces mathématiques et à cette histoire des mathématiques comme quelque chose d'absolument pas monolithique, en silo, avec des blocs qui évoluent chacun de leur côté, mais aussi avec des porosités, avec des circulations, avec des allers-retours aussi parfois. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Karim Chemla, d'être venu nous donner un aperçu de cette immense histoire et très longue histoire des mathématiques en Chine. Et puis peut-être qu'il y aura, on ne sait pas, 2 autres ou 3 autres ou 50 autres épisodes consacrés à ce sujet passionnant. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
Swallowed up in the squall, I can't walk away.
Chinatown par Destroyer dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé de cette histoire mathématique, il est temps de nous tourner vers le terrain de l'archéologie.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
En 1967, un film documentaire polonais mettait en lumière les toutes premières fouilles archéologiques réalisées dans le camp de concentration et centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Son titre, Archéologia. Durant ces 14 minutes sans parole et en noir et blanc, apparaissent à l'écran une foule d'objets banals et intimes emportés par les victimes jusque sur le pas de leur mort dans les chambres à gaz. En tout, ce sont 16 470 objets qui ont été exhumés lors de la fouille sur une parcelle de 10 mètres carrés. Mais que sont devenus ces objets et comment incarnent-ils les enjeux particulièrement sensibles soulevé par l'archéologie de la Shoah et plus globalement par l'archéologie du contemporain. Voilà quelques-unes des questions qui émergent dans un autre documentaire à voir en ce moment sur la chaîne Histoire TV intitulée Sous la Terre et que vous avez réalisé Ania Szczepanska. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne du cinéma, réalisatrice de documentaires, enseignante-chercheuse à l'université Paris Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Et bonjour Alain Schnapp. Vous êtes archéologue et historien, professeur émérite d'archéologie grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le co-auteur avec Jean-Paul Demoule du récent « Qui a peur de l'archéologie ? La France face à son passé » paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien archéologique s'inscrit dans la continuité d'une précédente émission que nous avions consacrée à l'archéologie des camps de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions allés en 2024 visiter l'exposition « Dans les camps, archéologie de l'enfermement » au Laténium, parc et musée d'archéologie de Neuchâtel-Haute-Rive en Suisse. Une exposition particulièrement intelligente et bien conçue qui mettait en lumière une grande quantité d'objets retrouvés sur les sites de différents camps de concentration ou d'extermination et qui nous éclairait non seulement sur la vie et la mort dans les camps, mais aussi sur le statut particulier de ces vestiges matériels retrouvés dans ces lieux. Et cette exposition, elle s'achevait avec la présentation de 4 petits objets retrouvés à Auschwitz-Birkenau, un dé à coudre, une boucle d'oreille, une broche en forme de rose et un tube de rouge à lèvres. Ces 4 objets ont été découverts justement lors du tournage de film que j'évoquais il y a quelques instants, Archéologia, du cinéaste polonais Andrzej Brzozowski, tourné en 1967 et dont nous allons parler. Ania Szczepanska, après cette introduction éternelle, je vais vous demander peut-être pour commencer de cette discussion de nous raconter comment vous en êtes venu à tomber sur ce film, à rencontrer ce film et à travailler dessus pendant 14 ans.
Alors quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la Pologne, j'ai fait une thèse sur le cinéma polonais à l'époque communiste. Et je m'intéressais aux questions de la puissance de ce cinéma dans un contexte contraint, où il existait une certaine censure et une idéologie. Je n'étais absolument pas spécialiste de la Shoah. Et en 2010, je terminais ma thèse et l'historienne Annette Wiewiórka m'a demandé de présenter un petit court-métrage qui s'appelait donc Archéologie, Archéologia en polonais, un petit court-métrage de 14 minutes dans le cadre d'un colloque, plus exactement d'une journée d'études qu'elle organisait avec le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Cewiński, et qui s'intitulait Le futur d'Auschwitz. Donc c'était un colloque sur la conservation, la préservation des vestiges du lieu. Et ce petit film, moi je ne le connaissais absolument pas, il avait circulé en France auprès des instituteurs et des professeurs d'histoire-géographie, c'est comme ça qu'Annette Wiewiórka l'avait vu à cette époque. Il faut rappeler qu'il y avait des échanges entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et que des films donc circulaient. Mais de ce film on ne savait pas grand-chose, même pratiquement rien à part le nom de son réalisateur, Andrzej Brzozowski, et ce que pouvait en dire le générique de fin, c'est-à-dire que le film avait été produit dans un studio de films éducatifs à Łódź, dont je ne savais pas grand-chose.
Est-ce qu'on peut parler d'Andrzej Brzozowski, du coup, et finalement de son travail avant Archéologia ? Comment il en est venu à placer l'Holocauste, finalement, au centre de sa recherche cinématographique ?
Lorsque j'ai vu ce film pour la première fois, donc en 2010, c'est vrai que j'ai été très frappée par la forme, puisqu'il n'y a aucun mot. Et Andrzej Brzozowski, on n'avait pas grand-chose sur lui. On savait juste qu'il avait... C'est un cinéaste assez mineur, finalement, de l'histoire du cinéma par rapport à d'autres cinéastes qui avaient fait des longs-métrages de fiction. Mineur parce qu'il s'était interrogé sur des questions peut-être scientifiques, historiques, qui à l'époque n'étaient pas centrales. Et surtout, il le faisait dans des formes très courtes. Donc en s'attaquant à des films scientifiques et pédagogiques. Et donc, je me suis moi-même demandé comment ce sujet de l'Holocauste avait surgi dans son œuvre. Et c'est en faisant des recherches au studio des films éducatifs de Łódź que j'ai compris qu'en fait, Archéologie était un des films dans lequel il développait cette proposition, mais il y en avait d'autres courts-métrages et d'autres films où il s'attaquait de manière non frontale à cette question, à ce sujet.
Parlons du point de départ de ce documentaire de 14 minutes dont on voit des extraits dans votre documentaire à vous, Sous la Terre. J'ai malheureusement pas pu le voir en entier et c'est à grand regret parce que ça m'a rendu extrêmement curieux.
Vous pourrez le revoir sur Histoire TV.
Je pourrais le revoir sur Histoire TV, mais ce documentaire que j'ai pas pu voir en entier, Archéologia, parce que le vôtre, je l'ai vu en entier, hein, Sous la Terre. J'ai travaillé quand même. non mais Archéologia, comment on peut définir cet objet, le point de départ, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un cinéaste qui motive la première et encore à ce jour dernière fouille archéologique réalisée à Auschwitz.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est parce que c'était pas un film auquel ce court-métrage, donc Archéologie, qui était disponible. On clique pas Archéologie et on a le film tout à coup en ligne. C'était un film un peu oublié, je dirais, dont il n'existait pas de restauration. Et donc l'objet de mon film Sous la Terre, ça a été de déployer en quelque sorte ce film, de le comprendre à la fois ses conditions de production, comment est-ce qu'on a pu autoriser en 1967 de faire un tel film, mais surtout ce que j'ai découvert, alors je ne sais pas si je devrais le dire d'emblée, parce que c'est vraiment tout l'objet du film Sous la Terre, c'est que l'idée de faire des fouilles n'était pas une idée d'archéologue, ce n'était pas une idée scientifique, mais c'était une idée de cinéaste. C'est parce qu'il avait envie de convoquer des archéologues sur ce site que ce film a été possible.
Alain Schnapp, dans l'histoire de l'archéologie, est-ce que c'est quelque chose d'unique, le fait que justement le cinéma motive la réalisation de fouilles dans un site aussi important dans l'histoire récente que l'est celui d'Auschwitz-Birkenau?
C'est évidemment quelque chose d'assez rare. Mais il y a, ne serait-ce que penser aux pyramides d'Égypte, penser aux grands sites, la curiosité s'est éveillée avec le cinéma de certains d'entre eux et a permis de créer des genres différents, le genre du film scientifique, le genre du péplum, etc. Et cette découverte ou redécouverte de Brodowski est formidable parce qu'elle montre la tension extrême qui peut surgir de la volonté de représenter le passé à travers un processus vivant qui est le dégagement de la fouille. Et la fouille, c'est une série d'actes et qui isole une part de l'espace et qui tente de le définir le plus souvent en profondeur, mais pas seulement, ça peut être aussi des stratigraphies horizontales, comme on dit. Et donc, cet outil, il a été mis au point à la fin du XIXe siècle, et il est devenu vraiment opérationnel dans la première moitié du XXe siècle. Donc, voir qu'un archéologue polonais, un pays dans lequel l'archéologie a joué un rôle très important, très important pour la reconstruction de l'histoire polonaise, et pour l'émancipation, les Polonais devaient s'émanciper de deux traditions dominantes, celle germanique et la tradition russe puis soviétique. Et donc ça explique probablement le fait que dans les pays de l'Est, l'un des pays les plus développés en matière d'archéologie était la Pologne. Quand je dis développé, c'est que en Pologne, on avait des systèmes d'interrogation de l'espace, d'exploration des strates, d'archivage et de mise en valeur des données qui n'existaient à ce moment-là guère en France et même en Italie. En Angleterre, en Allemagne, c'était un peu différent.
Et tout ça est très bien représenté dans le film de Brodowski, Ania Szczepanska. C'est un film vraiment scientifique où on voit les archéologues à l'œuvre. Peut-être que vous pourriez nous décrire ces 14 minutes. En résumé, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ?
Comme le disait Alain Schnapp, on montre les différentes étapes, puisqu'il y avait à l'époque, dans ce studio des films éducatifs, beaucoup de films qui essayaient d'expliquer les sciences, un peu comme ce que vous faites, mais à l'image, c'est-à-dire d'expliquer comment une pensée fonctionne et comment une pratique fonctionne par rapport à des questions qu'on se pose et de manière disciplinaire, c'est-à-dire comment fonctionne qu'est-ce que c'est l'archéologie. Donc on voit des gens marcher sur de l'herbe, regarder dans le sol, regarder l'herbe, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent. Et puis petit à petit, on les voit toucher le sol et, comme vous dites, déployer ces strates avec au montage des plans de ces 10 mètres sur 10 mètres, 4 espaces qui sont identifiés. Et au fur et à mesure de ces 14 minutes, on voit des objets apparaître, qui sont montrés et qui sont nommés également dans différentes langues, qui sont les différentes langues aussi qui fonctionnaient au musée d'Auschwitz à l'époque. Et donc on voit un morceau de domino, par exemple. On voit un morceau de papier. On voit un petit bout de une pièce qui venait du ghetto de Hutsch, justement Litzmannstadt. Donc on voit ces objets, leurs noms. Et le visage des archéologues qui observent de manière très attentive la forme de ces objets. Mais aucune parole pour nous aider à comprendre d'où viennent ces objets et ce qu'ils peuvent nous raconter dans leur historicité.
C'est ça qui m'a intrigué dans ce documentaire Archéologia, c'est le fait que ce soit sans parole, ça nous montre des choses, mais ça occulte aussi certaines choses, ça place un filtre scientifique sur un espace qui est absolument pas banal. Que nous dit et ne nous dit pas Brojowski dans ce film Archéologia de 67?
Ça, c'est une bonne question. C'est toujours qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on laisse hors champ. Le film donc nous montre ce travail d'archéologue. On voit qu'il y a beaucoup d'objets, puisque ces objets, tout à coup, deviennent une masse. Donc, on comprend que de quelques objets qui nous sont montrés en gros plan, que ces objets appartiennent à des ensembles beaucoup plus vastes. Et à la fin, on apprend seulement le nom des personnes qui ont participé à ces fouilles et le lieu, c'est-à-dire le lieu exact, près des crématoires 2 et 3, c'est tout. Mmh. Et donc, à partir de ces indices, moi, je vois ça comme des indices visuels, mais aussi des indices qu'il faut savoir ensuite déchiffrer. Donc, il ne nous dit pas exact, il ne nous dit pas, dans ce film-là, à qui ont appartenu ces objets. Il ne nous dit pas pourquoi ils se sont retrouvés là.
Il ne dit pas que c'était essentiellement des juifs aussi qui ont été assassinés.
Et il ne dit pas que ce sont des objets qui ont appartenu à des juifs. Donc c'est à nous, en quelque sorte, de... C'est pour ça que ce film est très puissant. C'est parce qu'il pose énormément de questions dont il faut s'emparer et auxquelles il faut répondre.
Alain Schnapp, quand vous avez vu le documentaire Sous la Terre d'Anya Szczepanska qui rend compte de ce film Archéologa, est-ce que vous avez retrouvé une image fidèle de ce qu'est une fouille archéologique? Parce que Jerzy Krupa, qui est l'archéologue qui a été sollicité par Brojowski pour son documentaire, semble se plaindre un petit peu des ordres que lui donnait le cinéaste dans la réalisation de sa fouille et de la confrontation finalement entre un film et la méthode scientifique de l'archéologue. Vous, en tant qu'archéologue, quand vous regardez ces fouilles de 67, quelle sensation vous retrouvez de votre travail à vous?
Bien, elle est familière. On fouille à ce moment-là, dans une grande partie de l'Europe, en carré. C'est carré avec des bermes, c'est-à-dire un réticule qui conserve en place les strates au fur et à mesure qu'on descend. Donc le système permet à la fois une topographie stratigraphique et de rendre dans les parois la succession. Donc on voit les archéologues avec minutie installer leur système. Le quadrillage, c'est ce qui fait la fouille professionnelle. Et c'est un moment, les années 60, où justement la question d'ensemble est posée aux archéologues, parce que la tradition des grands chantiers, ceux de l'Égypte, ceux de l'Italie et ceux de la Grèce, avait fait que on ne fouillait pas de cette manière. On dégageait plutôt. Mmh. Le dégagement, et à un certain moment dans le film, quelqu'un demande à l'archéologue de ramasser. Il dit non, on ne ramasse pas. On regarde les choses en place et seulement après on peut bouger. Donc c'est la question du relevé. L'archéologue, c'est un mot d'André Leroy-Gourhan, le meilleur préhistorien de sa génération, il disait, est le seul des praticiens des sciences humaines qui détruit sa documentation en même temps qu'il la constitue. Mmh. Hein? Et c'est un des problèmes. Et vous trouvez, puisqu'on est dans le monde slave, vous trouvez la même réflexion littéraire dans l'extraordinaire roman de Dombrowski, de Yuri Dombrowski, le conservateur des antiquités, où il dit quelque part, les archéologues enregistrent un maximum de choses parce qu'ils prétendent ne rien perdre de la documentation qu'ils observent. Et dans les faits, ils n'y arrivent jamais. Donc il y a un côté un peu dérisoire dans la volonté de complétude, dans la volonté d'archivage systémique que propose la fouille. Et ce document illustre bien, le film de Brojowski illustre bien la situation de l'archéologie au moment où il est opérationnel. Et les interviews qu'Anya a menées ensuite, celles du couple Krupa, mm-hmm. le montre, le révèle de façon extrêmement lisible.
On va parler de cette documentation et de ces objets, bien sûr, qui ont été découverts lors de la fouille réalisée pour ce tournage du film Archéologuère en 1967. Et pour cela, je vous propose qu'on écoute un extrait de votre film Ania Szczepanska, Sous la Terre.
Au moment où je pensais avoir compris le dispositif d'Archéologia, je tombe sur cette liste. Inventaire des objets trouvés lors de fouilles archéologiques sur le terrain du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, dans la région des crématoires 2 et 3, octobre et novembre 1967. Ordre alphabétique. Agrafe 2. Crème d'après-rasage 1. Ampoule pharmaceutique 15. Armature hydraulique 1. Bakélite fragment 3. Batterie de l'homme de poche 25. 438 catégories d'objets, de fragments d'objets. Total 16 470. Pour réaliser une liste aussi vertigineuse, il faut de la minutie, de la persévérance, de l'obsession. Il faut un véritable esprit archéologique. Cette liste, c'est l'archéologue Jerzy Krupe qui l'a écrite.
Ania Szczepanska, Jerzy Krupe, c'est cet archéologue donc qu'on voit dans des extraits du film Archéologia, qui est un vieux monsieur que vous rencontrez dans le cadre de votre documentaire, un vieux monsieur pas facile à manœuvrer, puisqu'il est assez réticent à répondre à vos questions. Et il a établi patiemment cette liste. Que nous dit cette liste et comment vous réagissez en tant que documentariste quand vous tombez dessus dans le cadre de ce travail d'enquête?
Alors Alain Schnapp parlait tout à l'heure de la documentation des fouilles archéologiques. Moi, en tant qu'historienne du cinéma, je travaille aussi sur les archives des films. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce moment de jonction entre les fouilles et le cinéma. Puisque cette liste, dont vous avez entendu un extrait, je l'ai trouvée dans le grand dossier du film, au studio des films éducatifs. C'est-à-dire, ça faisait partie de la documentation du film. Alors vous me direz, est-ce que c'est si important ? Eh bien oui, parce que ça montre aussi que le cinéaste a voulu conserver pour l'histoire de son film une trace donc de cette liste. Et cette liste, elle m'a évidemment, comme beaucoup de listes, mais cette liste m'a particulièrement fascinée parce que elle est d'abord dans l'ordre alphabétique, ce qui est toujours un peu, enfin pourquoi pas, c'est un ordre parmi d'autres. Elle montre l'extrême minutie avec laquelle l'archéologue a traité ces objets après le tournage, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de participer à un tournage, mais ensuite il a étudié aussi ces objets. Et évidemment, chacune de ces lignes, de ces objets, pose d'autres questions. Et c'est avec ces questions que je suis allée le voir à l'Institut d'archéologie de Varsovie. J'étais évidemment extrêmement heureuse de savoir qu'il était encore vivant et disposé à parler de cette histoire.
Alors ces objets aussi, quand on écoute cet extrait, on se rend compte de leur dimension à la fois banale, très intime, très sensible. C'est des objets, Alain Schnapp, qui ne relèvent pas du trésor, comme on peut y penser en tant qu'archéologue. Vous, quand vous voyez cette liste-là, comment vous pensez déjà au travail scientifique qu'on pourrait fournir sur ces objets retrouvés à Auschwitz-Birkenau?
Toutes ces listes sont liées à l'apparition de ce que nous appelons l'archéologie quantitative. C'est-à-dire l'archéologie qui cherche à documenter l'ensemble des données présentes sur un site et non pas d'en faire une sélection entre les objets qui méritent d'être conservés et ceux qu'on va rejeter. C'est un des problèmes majeurs, par exemple dans les études céramiques, parce que chaque société laisse des millions de tessons. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit jeter? Et donc ça pose la question de la relation entre le terrain et les objets. Les objets faisaient déjà partie de la culture des antiquaires européens, de ceux qui, depuis l'Antiquité gréco-romaine, égyptienne ou mésopotamienne, s'intéressaient au passé. Les antiquaires, par définition, le faisaient. Et donc, on croit souvent que l'archéologie, elle est née toute seule au XIXe siècle, au début du XXe siècle. C'est bien plus compliqué que cela. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'ont réalisé les archéologues polonais dans cette fouille d'Auschwitz, c'est qu'ils ont gardé l'ensemble des données en essayant, et Ania le disait il y a un instant, en essayant de faire que chaque objet soit égal à l'autre. C'est ça, le privilège de l'approche alphabétique, en quelque sorte. Ensuite, évidemment, ce n'est pas la même chose de dégager un dé à coudre et de dégager ce qui reste d'une blague à tabac ou un bijou très intime qu'on voit apparaître ou réapparaître. Donc, la force du travail de l'archéologue a été d'extraire ces objets et de les préparer à être publiés, ce qui fait partie de la tâche majeure de l'archéologue, pour être accessible. Mais en quelque sorte, le temps lui a manqué. Mmh. Et ce qui explique un peu... Enfin, je pense que ce n'est pas seulement le temps qui manquait, c'était aussi la capacité de gérer tout cela. Et ce qu'Anya a découvert, c'est que on ne savait rien de cette fouille, mais qu'on pouvait la reconstituer à travers les images du film et à travers ces archives qui étaient déposées à l'époque à l'Institut d'archéologie et non pas au musée. Alors ça sonne, Institut d'archéologie, musée, ça sonne comme tout à fait simple, mais non. Le pôle muséal et le pôle recherche, qu'on retrouve dans toute opération de fouille, doit se conjuguer, parce que sinon, l'un tire à lui tout ce qui peut intéresser l'autre. Et dans le cas présent découvert par Anya, c'est que les objets eux-mêmes n'avaient pas été préparés pour leur accessibilité. Et c'est ce processus de recomposition, de retour à la vie que nous présente le documentaire d'Anya.
Anya Szczepanska, c'est quelque chose aussi de très intéressant dans ce documentaire Sous la Terre, c'est que on découvre que ces objets, c'est découvert, donc 16 470 objets découverts dans 10 mètres carrés de terrain, rappelons-le, ont été comme éclipsés. Ils ont connu une période d'ombre, ils sont restés dans l'ombre pendant des décennies dans les collections de l'Institut archéologique de Varsovie. Avec cette idée, peut-être que Jerzy Krupa voulait travailler dessus, voulait publier dessus, et pourtant il ne l'a pas fait. Vous, comment vous avez interprété cette éclipse, là, de ces objets ?
Alors, on peut l'interpréter de différentes manières. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on peut relier ce travail archéologique avec ce deuxième pôle qui est le musée d'Auschwitz. Parce que pendant que je faisais ce film, le directeur du musée, Piotr Tsivinski, et la conservatrice en chef, Elzbieta Zeiser, a mené également son enquête et a trouvé ces cartons à l'Institut d'archéologie. Et donc, ce qui m'a intéressé dans mon film, c'est de montrer, en quelque sorte, le processus de restitution au musée.
Parce que le musée demandait à Jerzy Krupa dans les années 70 à envoyer beaucoup de lettres à Jerzy Krupa pour lui dire confiez-nous ces objets-là. Et lui, il les faisait mariner un petit peu.
Oui, comme tout archéologue, j'allais dire. On en parlait tout à l'heure avec Alain Schnapp. Apparemment, c'est quelque chose d'assez courant, cette volonté de garder pour étudier. Et pendant 5 ans, en effet, le directeur du musée de l'époque a tenté de convaincre l'archéologue de lui rendre ces objets. Jerzy Krupa considérait qu'il n'avait pas encore fini son travail. Et là, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il a aussi, en quelque sorte, protégé ses collections. Certes, dans des conditions très contestables pour les conservateurs et conservatrices d'aujourd'hui, mais désormais, ces collections, ces objets, sans valeur, en tout cas économique, font partie des collections du musée et constituent 10% des collections du musée d'Auschwitz.
Ils ont été restitués en 2016. Dans votre documentaire, Anya Szczepanska, on voit donc Jerzy Krupa, cet archéologue, et son épouse, Martina Krupa, qui elle-même est archéologue, et elle dit que c'est une sage décision de ne plus déterrer les objets que contient le sol d'Auschwitz-Birkenau, même si c'est facile de les trouver. Et elle dit, je la cite, « Cette terre, dans son état actuel, cette glaise, est un témoin de l'histoire. Il ne faut pas y renoncer, ça doit rester ainsi. » Et Alain Schnapp, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce documentaire Sous la Terre d'Anya Szczepanska, c'est cette question énorme qui se pose, quelle archéologie de la Shoah faut-il faire? Et quel est l'état du débat aujourd'hui sur cette question-là? Comment faire une archéologie de cette guerre, de ces massacres, de ce génocide? Où en sommes-nous de cette question-là?
C'est un problème fondamental parce qu'il complique un peu le travail archéologique. Ce qu'on appelle l'archéologie, dans le mot même archéologie, vous avez arché, l'ancienneté, le début, eh bien, c'est que on travaille sur des objets distants dans le temps, parfois même dans l'espace. Et donc, le travail archéologique n'interfère pas directement avec les sociétés actuelles et vivantes. Encore que l'archéologie coloniale n'ait pas respecté les droits et les précautions des populations natives à protéger, exploiter leur archéologie. Et donc, Lacan, Martina pose la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de fouiller à Auschwitz ? La réponse est, c'est une question de problématique. Comment faire ? Il est toujours possible de fouiller ici ou là. Mais qu'est-ce qu'on trouve ? Et dans quel respect vis-à-vis, là on a les traces, de personnes qui ont été déplacées puis exterminées ? Qu'est-ce qu'on fait à leur mémoire quand on va, en quelque sorte, déranger l'ordre des couches et l'ordre de stratification des objets ? Parce que c'est ça qui est important pour l'archéologie.
Parce qu'en plus, ces objets émergent littéralement de la terre. Il suffit de se pencher pour en ramasser presque. C'est tragique.
La position de l'archéologue, c'est d'être à genoux. Ça, il n'y a pas de débat pour dégager avec la truelle ou avec d'autres objets. Mais la question de l'archéologie du temps présent, c'est une question qui commence à émerger dans les années 80. Et au départ, les institutions archéologiques dans le monde refusent en disant « Mais non, on sait assez de choses pour le monde contemporain. Il y a des sources écrites, il y a des sources vidéo, il y a d'autres. On n'a pas besoin de fouiller. » Et on s'aperçoit que la fouille, comme vous l'avez repéré là, apporte des éléments nouveaux. Et donc les institutions se veulent aujourd'hui plus attentives. Mais la question fondamentale qu'elles posent, c'est est-ce que la fouille va apporter un supplément ? Et est-ce que ce supplément n'agresse pas les populations qui ont vécu dans l'endroit qu'on explore ou qui sont liées à cet endroit par des liens culturels ou matériels ? Et donc, la grande question du 21e siècle, on entend parler avec toute la question des restitutions, c'est de doter la pratique archéologique d'une éthique. Et dans cette éthique, il y a respecter les objets qui sont dans le sol, mais aussi les mettre à la disposition des autres. Et là, le couple Krupp a pratiqué une rétention, mais cette rétention, je le disais à Anya, je la trouve dans des dizaines, dans des centaines d'autres fouilles dans lesquelles les archéologues disent toujours « On va vous rendre les objets, mais laissez-nous le temps de les étudier. » Et puis parfois, ce temps se termine avec leur vie matérielle.
Anya Szczepanska, ces objets qu'on voit dans le film, donc non seulement dans le documentaire, mais après, entre les mains des restauratrices et restaurateurs du musée d'Auschwitz, quelle est leur existence actuelle ? Comment circulent-ils ? Quel est leur statut, concrètement ?
Ce qui m'a fascinée, c'est le changement de statut de ces objets, justement, depuis l'avant-guerre jusqu'à aujourd'hui, finalement, sur un temps beaucoup plus long que simplement celui de la guerre, puis de leur découverte. Et leur changement de statut, évidemment, à partir du moment où ils rentrent dans des collections de musées, ils ont une autre valeur économique aussi, une valeur mémorielle. Peut-être c'est pour cette raison que ce film, j'ai voulu en faire un film, c'est de voir comment l'archéologie peut dialoguer et peut s'adresser à nous aussi, au-delà peut-être des spécialistes de l'archéologie, mais comment tout à coup elle peut provoquer des émotions, poser des questions et rapprocher peut-être des temporalités. Rapprocher, ça ne veut pas dire les aplatir. Ça veut dire au contraire les faire dialoguer, nous rapprocher d'un temps passé de manière peut-être plus intense et par l'émotion aussi et par la question de l'authenticité matérielle.
En tout cas, ce pari est réussi. Vous pouvez donc voir ce documentaire passionnant Sous la Terre sur la chaîne Historia TV et j'espère bientôt partout. Merci beaucoup Anya Szczepanska et merci Alain Schnapp et merci à Christine Bernard de France Culture qui a attiré mon attention sur ce très beau documentaire Sous la Terre. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Ludovic Auger, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.